Anne.
Jean-Marie.
Ma sœur Anne, comme disait le père Do, dont nous allons parler. Ma sœur Anne, nous venons de prendre une décision définitive, peut-être pas définitive, momentanée, qui est de nous vous soyez ou de nous vous voyez. Je ne sais pas si ça va marcher, mais... Alors, vous venez de publier un ouvrage qui ne comporte pas d'ailleurs d'étiquette, au fond. Il n'y a pas roman, il n'y a pas récit, qui s'appelle « Un saint homme ». Et justement, pourquoi il n'y a pas d'étiquette ? Le caractère autobiographique est extrêmement net, mais vous savez bien qu'aujourd'hui, dès que c'est autobiographique, on met roman, parce que roman, ça se vend mieux, ça accroche davantage
non,
le public.
Non, parce que quand j'ai mis roman oui. dans des livres précédents, ça correspondait à quelque chose que je trouvais romanesque, avec réinventation, coupe, oui, enfin pas récit, ni mémoire encore plus. Et pour répondre à votre question
que je n'ai pas eu le temps de formuler jusqu'au bout, mais très
bien. Oui, mais faites-moi taire.
Non, au contraire.
Eh bien, je ne sais pas, ça m'a paru évident que je ne pouvais pas mettre un nom dessous. Si j'avais mis un nom, ça aurait été récit. Mais récit, il aurait fallu que j'enquête plus sur ce personnage du livre. Et j'avais pas du tout envie de ça, d'aller au-delà de ce que je savais de lui. Donc j'ai rien mis. Voilà.
Comment passe-t-on pourquoi d'ailleurs passe-t-on ? Vos premiers livres sont des romans, sont des fictions. Et puis à partir d'un certain moment, vous abandonnez la fiction pour quelque chose qui relève du récit autobiographique, quand vous parlez des gens qui ont compté dans votre vie, de Bresson ou de Jean-Luc Godard, là on n'est plus dans le roman exactement. Et un saint homme, on n'est pas du tout dans le roman. Alors comment passe-t-on et pourquoi passe-t-on de l'écriture de fiction à ce qu'on appelle l'écriture de soi, ou l'écriture du jeu, ou tout ce qu'on voudra aujourd'hui.
Pardon, parce que très souvent je dis « je sais pas bien », et c'est vrai, il faut pas m'en vouloir, mais c'est pas parti d'une décision absolument raisonnée. Je suis très impressionnée quand j'entends Daniel Pénac aujourd'hui qui revient avec ses Malocènes et qui dit j'en ai deux autres, il y en aura trois. Je me dis mon Dieu, quel vénard il a de savoir ce qu'il va faire. C'est pas mon cas. Et c'est venu comme ça, c'est un peu venu comme ça. Sauf que je savais que par exemple, j'ai su en cours de route que le livre. Sur ma vie avec Jean-Luc Godard, il fallait qu'il y en ait deux parce que j'étais pas capable d'en écrire un seul qui couperait tout. Donc vous voyez, c'est des choses que je ne sais pas facilement expliquer.
Ma vie avec Jean-Luc Godard.
Non, parce que c'est le livre d'avant.
Oui. Vous dites, dès les premières pages de ce livre, que vous avez eu plusieurs vies. Et d'ailleurs, ça va être quelque chose à mettre au net, à mettre au point avec le père d'eau, dont nous allons tout de suite parler. Et qu'est-ce que ça veut dire, plusieurs vies ?
Je crois, pardon, cher ami,
oui.
J'ai jamais dit plusieurs vies, j'ai dit deux.
Diverses vies, mais vies diverses.
Non.
Je vais te dire, enfin peu importe. Oui.
Arrêtez.
Mais diverses vies, voilà. Mais diverses vies.
En tout cas, professionnellement, j'ai une vie d'actrice et une vie d'écrire. Et je n'ai jamais, dès le début de la deuxième vie, su que je n'étais pas capable de faire les deux en même temps, comme d'autres le font bien, et que j'en vis.
Alors, la vie tout court, au fond, hein, qui n'est pas encore celle de l'actrice, qui n'est pas encore celle de l'écrivain, elle commence en France, mais le livre, lui, commence... Alors, j'ai toujours une hésitation, parce qu'il y a une chanson de Marie Laforêt.
Laquelle ?
Elle s'appelle Sébastien. Et Sébastien est un berger qui garde les moutons.
Il chante très bien.
Oui, mais non, mais je ne veux pas, je trouve pas ça. Et alors, il a voulu épouser, enfin, sinon Marie Laforêt, du moins, l'interprète, enfin la chanteuse. Et il est parti faire fortune au Venezuela. Au Venezuela, chante Marie Laforêt. Et donc, évidemment, elle avait tourné le nez sur le gardien de mouton, mais comme il revient très riche du Venezuela, là, elle est plutôt prête à l'épouser. Alors, j'ai toujours une hésitation à cause de cette chanson de Marie Laforêt. Évidemment, c'est le Venezuela, merci. Merci, mais vous pourrez l'expliquer à l'auteur des paroles de la chanson de Marie Laforêt. Ça commence au Venezuela, et vous êtes entre l'enfance et l'adolescence. Et qu'est-ce que vous faites au Venezuela ? Comment êtes-vous là-bas ?
Je suis au Venezuela parce que je suis mes parents qui sont nommés. Mon père est nommé au Venezuela.
Quelle est sa fonction ?
Ben justement, il n'est pas du tout, j'en ai marre de le dire et de le redire, il n'est pas du tout un diplomate, un type... Vous voyez, il s'occupe dans une administration qui s'appelle le CIME, qui avait son siège à Genève, de l'immigration. Donc, on m'a toujours considéré, et j'arrête pas de dire, je ne suis pas la fille d'un diplomate, je sais pas. J'ai pas vécu cette vue-là. J'ai eu un père qui jusqu'à sa mort très très rapide s'est battu. Donc non, j'ai pas. Je peux pas vous dire que. Mais le fait. On était au Venezuela parce que une famille suit son papa.
Oui, oui. Mais quand même, il appartient à la catégorie, en effet, des gens aisés au Venezuela.
Mais pas tant que vous pensez. Ah ben, ce que vous pensez tous.
Je fais partie du troupeau de gardiens de moutons que Marie Laforêt ne veut pas épouser. Alors, donc. Dans cette école qui s'appelle le Collegio
Francia, qui était le seul collège catholique, mais surtout le seul collège français dans la ville de Caracas, et qui était à cette époque-là, ce qui n'existait pas en France, mixte, c'est-à-dire filles et garçons ensemble.
Et donc, dans ce collège, il y a toutes sortes d'élèves, en effet. Il y a
oui, mais ça, enfants. Je l'ai su après.
Hein. Ah oui, par le père d'eau.
Oui.
Mais à ce moment-là, quand même, il semble que vous soyez, enfin, vous le dites, en tout cas, déjà choqué à Caracas par l'injustice et la différence entre les très riches et les très pauvres. C'est vraiment un sentiment enfantin, ça ?
Oui. Absolument, et je pense que c'est une chance que j'ai eue de voir tôt dans la vie qu'il y avait pas que des blancs, qu'il y avait d'autres couleurs de race. Comme on allait à Caracas sur le paquebot Antilles, je me souviens la première fois où j'ai eu conscience, j'avais 9 ans, de ce qu'était la pauvreté, c'est à Haïti. Où on sait la pauvreté que, enfin, elle était telle qu'on le dit maintenant, et que l'adulte que je suis devenue, le comprends. Mais la fillette de 9 ans l'a compris aussi. Et je pense que c'est une chance de ne pas avoir été... excusez-moi, c'est pas contre Bordeaux que j'adore, mais élevée dans une réserve bordelaise ou une réserve parisienne, vous voyez. Enfin, je comprends maintenant que c'est mieux.
Le paquebot Antilles, il est important, et parce que c'est celui que vous empruntez pour aller de France à Caracas.
Oui.
C'est celui que prendra le Perdeau aussi, d'ailleurs.
Oui.
Mais pas dans la même classe.
Non.
Et le paquebot Antilles, la dernière fois que vous le prenez pour rentrer en France, vous pensez que vous venez passer vos vacances en France. Or, c'est une espèce de trahison. Enfin, je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est en tout cas un silence des parents qui ne vous ont pas dit que votre frère, Pierre, et vous, vous rentriez définitivement en France, que vous alliez vous installer chez vos grands-parents, c'est François Mauriac, et ce que vous avez raconté dans d'autres livres, et vous croyez aller passer des vacances, et puis c'est Caracas, fini. Le Venezuela, fini.
J'avais du mal avec Venezuela.
Mais je sais. Laissez-moi aimer Marie Laforêt, quand même. Enfin, et puis, vous vous apercevez que vous ne rentrez pas. Vous ne revenez pas à Caracas. C'est un sentiment un peu douloureux, quoi, ça...
Ah, ça a été un des moments les plus affreux pour mon frère et moi de rester à Paris. En plus, notre père est mort très vite après. Et de ne pas retourner à Caracas, qu'on adorait. Et de retrouver une scolarité française qui n'avait rien à voir avec le collège français de Caracas, où on était... Ils étaient tous plus nuls les uns que les autres. Et ça rigolait pas à Paris, hein, quand on est rentré.
Alors, dans ce collège catholique et mixte, il y a un jeune prêtre avec une soutane blanche.
Oui, parce que dans les pays chauds...
C'est dans les pays chauds.
C'est comme ça.
Les pays chauds. Qui était un très jeune, assez jeune, il est très jeune, et qui est votre professeur de français et de latin. Et alors, comment ça se passe? Vous vous intéressez à lui, il s'intéresse à vous, vous vous attachez l'un et l'autre, visiblement, puisque aujourd'hui un livre en sort. Et quel est celui qui manifestait de l'intérêt? Est-ce le prof pour cet élève dont on lui avait dit, c'est la petite fille de François Mauriac, et il avait dit, ben manquait plus que ça. Ben, donc c'était pas une bonne carte de visite. Hein. Comment ça se passe au début?
Mais j'aurais bien aimé m'en souvenir, parce que je l'aurais raconté. Mais je ne m'en souviens pas, c'est venu assez vite, et réciproquement assez vite. Ben, je crois que ça a dû commencer peut-être par lui qui trouvait que je n'étais pas... manquait plus que la petite fille de Mauriac, enfin, vous voyez.
Oui, elle doit se croire intéressante. Elle doit se croire intéressante. Voilà.
Donc j'étais pas ça. On était tous en retard. Mais nul. Vous pouvez pas imaginer dans ces classes... au Venezuela, de langue française. Donc, il se trouve qu'il y en avait une qui lisait quand même, et c'était moi, donc je pense que ça a dû jouer par rapport aux autres, très sympathiques, mais...
cette question de la lecture, ça tient un rôle, en effet, dans, oui. dans vos relations, puisqu'il y a même à un certain moment une espèce de rituel qui s'installe, c'est-à-dire le matin, vous vous rencontrez tous les deux, et il vous donne des conseils de lecture, et vous, vous lui dites ce que vous lisez de votre côté, d'ailleurs, lecture qui paraissent très étonnantes, parce que vous lisez, d'abord vous regardez Angélique Marquise, vous lisez Angélique Marquise des Anges avec votre mère, alors ça, il trouve ça quand même pas de votre âge.
Surtout, pardon de vous interrompre, il se demandait, mais de quoi vous parlez avec, en me racontant les aventures d'Angélique Marquise des Anges.
Et lui, il vous dit de lire Cesbron.
Mais j'ai adoré Cesbron.
Et alors quelque chose de très mystérieux. Je ne sais pas si on raconte le livre, c'est toujours pareil. Hein.
Comme vous voulez.
Quelque chose d'énigmatique pour vous, parce qu'effectivement l'enfance est énigmatique. On ne comprend pas ce qui se passe. Et vous ne savez pas ce qui se passe entre lui et vous.
Ah, moi je sais.
Non, vous avez dit que comment ça a commencé, vous ne saviez pas. Non, ce qui se passe après, oui. Mais comment ça commence? Et ensuite, il vous donne des conseils de lecture tous les matins, et puis tout d'un coup, il s'éloigne. Ça, c'est aussi ça fait partie des pages très douloureuses. Hein. Tout d'un coup, il s'éloigne. Il n'y a plus de rencontre du matin. Et vous apprendrez bien après que c'est parce qu'il y a eu des commérages.
Oui.
Et ça a été une douleur d'apprendre ça. Et une douleur pour lui sur le moment, certainement.
Oui, parce qu'il s'est passé, c'est qu'on était sur le point de rentrer en France. Et tout d'un coup, il n'est plus venu le matin devant tout le monde. Hein. Ce n'était pas du tout des rendez-vous secrets où on se parlait de nos lectures, du collège, etc. Il n'était plus là. Et puis, quand je lui ai demandé à la récréation pourquoi vous n'étiez plus là, il me dit j'étais occupée. Bon, bref, ça ne m'a pas inquiété. On est rentré en France. Et après, j'ai su que des merdeuses de mères, je ne sais pas comment la rage me prend encore pour le dire, ont signalé qu'un prêtre avec une adolescente avait rendez-vous tous les matins devant les autres élèves. Et ma mère a été convoquée avec le père d'eau. Ma mère était absolument, en disant « vous êtes complètement fou, il lui apporte beaucoup de choses, je suis témoin », comme ça. Et puis, mais bref, ça, je ne l'ai su que plus tard, parce que je ne l'ai pas revu le matin.
Alors plus tard,
et ma mère a craché à la figure d'une de ces femmes qui lui disait vous êtes leur complice. Là, c'est pris un crachat. Tout ça raconté par le père d'eau. Moi, j'y étais pas.
Voilà, parce que plus tard, alors, donc vous rentrez en France à l'insu de votre plein gré, et vous rentrez en France. Et puis, alors, vous perdez de vue le père d'eau. Et il va ressurgir à la faveur d'une conversation téléphonique, si je me rappelle bien, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, vous grandissez, vous devenez, comme vous l'avez rappelé, comédienne, vous tournez avec... Bresson, Pasolini, s'il vous plaît, enfin, c'est pas rien, avec Godard, bien entendu, vous épousez Godard. Mais alors, le père d'eau, lui, il continue sa carrière d'ecclésiastique, et il est nommé en Afrique. Et je pense que c'est en Afrique qu'il voit, ou c'est en Afrique qu'il y a un petit cinéma ambulant avec un drap que l'on tend. Et là, il voit au hasard Balthazar.
Oui, ce qui est une chose absolument incroyable, sauf que c'est vrai que j'ai la lettre du père d'eau, où il dit qu'il est donc ce coin perdu d'Afrique, avec le cinéma qui passe, qu'il est en train de lire les évangiles dans sa petite maison qui donnait sur la place du village, et que tout d'un coup, il reconnaît et croire connaître une voix qui dit Balthazar. Donc il sort et qui il retrouve sur l'écran ? Moi. Alors qu'on s'était quitté depuis 8-9 ans. Donc c'est ça, quand on s'est retrouvé, grâce à la parution de mon premier livre qui était Des filles bien élevées, et je passais en direct sur France Inter, je sais pas quoi, je crois mon premier livre bien sûr, mais ma première émission, lui il était près d'ici, il a entendu cette voix, il l'a reconnue, il a essayé de m'appeler, il m'a jointe, et tout a commencé de là. Et il était à Bordeaux.
Alors, à Bordeaux, c'est quand même, ça fait partie quand même, je suppose que entendre cette voix que vous n'aviez pas entendue depuis plusieurs années, et apprendre de cette voix qu'il est à Bordeaux, Bordeaux, c'est pas une ville insignifiante pour Anne Wierzemski, n'est-ce pas ? Bon. D'accord. Apprendre qu'il est à Bordeaux, c'est une multiplication de surprises et
oui.
Des étonnements redoublés.
Oui, complètement. Et donc il m'a jointe, c'est quelqu'un de bavard, donc téléphone, et il termine par dire, mais peut-être vous ne m'identifiez pas, vous. J'ai dit Bordeaux tout de suite, parce que la voix n'avait pas changé, et à partir de ce moment-là, on s'est retrouvés.
Donc le Bordeaux ressurgit, et là vous dites que, quand même, vous l'aviez abandonné.
Oui, c'est vrai.
Vous l'aviez abandonné.
Oui.
C'est-à-dire que d'abord, vous aviez vos diverses vies.
Pas encore.
Mais vous aviez votre vie. Votre mère disait de lui, c'est un enfant.
Oui, elle l'aimait beaucoup. Elle le trouvait très pur.
C'était deux enfants, au fond. Et alors, c'est un enfant. Et puis alors, vous êtes éloigné, vous avez une existence tout à fait, évidemment, différente de la sienne. Et même, j'ai l'impression que vous écrivez que, bon, oui, vous pensiez que peut-être c'était un enfant qui n'était pas très intéressant. Et cet abandon, cet éloignement, ce mépris, le mot est trop fort, mais enfin, tout d'un coup... Tout a basculé dans l'autre sens.
Oui, en termes de, vous savez, de montage de cinéma, on dit, on emploie le terme raccord direct. Eh bien, dès qu'on s'est parlé, une minute après, raccord direct, on a repris comme si ces années n'étaient pas passées. Et ça a été jusqu'à son décès, malheureusement. Et incroyablement facile. Il n'y a jamais eu de... On s'explique pourquoi vous avez ça, et vous, jamais.
Il y a un passage très lumineux, très beau dans le livre, c'est qu'il vient à Malagar. C'est un moment très pénible pour vous, puisque Malagar a été donné à la région. C'est un des derniers séjours que vous y faites.
Le dernier.
Il vient vous voir à Malagar. Alors vous êtes dans une chambre où on a ramassé quelques meubles, quelques souvenirs. Et puis, vous lui faites découvrir le domaine, vous lui faites découvrir la... fameuse terrasse, vous l'emmenez à Verdelet, voir la Vierge Noire, et respirer l'odeur
du fenouil sauvage,
l'odeur du fenouil sauvage. Ah, c'est un moment de grande lumière, et là, ça a été heureux, ces retrouvailles.
Oui, complètement, et surtout, comme je le disais, facile. Mais à part le fenouil sauvage, il connaissait tout, hein. Il était venu là avec des élèves, des jeunes chrétiens, enfin des gens de sa paroisse.
Et alors, Donc, à partir du moment où ces retrouvailles ont lieu, vous vous voyez de façon relativement régulière, vous téléphonez, vous écrivez, il vient ce mot-là à chaque fois que vous présentez un livre, au premier rang. Mais en même temps, il y a une chose qui m'a un peu étonné, c'est que vous ne parlez pas de religion.
Non.
Jamais.
Non, la seule fois on en a parlé, et la seule fois où il m'a vraiment gueulé, c'est quand j'ai dit que j'avais communié.
Sans vous être confessé.
Voilà. Ce que depuis, je n'ai plus jamais fait. Hein.
Mais pourquoi alors ne parlez-vous pas, pourquoi ne parlez-vous pas de religion ? Vous êtes la petite fille de François Mauriac.
Oui, mais il est
ecclésiastique. Et comment se fait-il que vous ne parliez pas de religion ? Moi, je peux vous raconter quelque chose. Hein.
Oh, yes.
Yes. Claude, votre oncle Claude, dont il est question. Et vous l'aimiez, puis un peu moins après.
Puis un peu plus.
Quoi. Puis un peu plus. J'étais avec lui dans le jardin public, devant chez moi. Là. Et nous regardions les poissons rouges. Il me disait, il me semble qu'ils étaient beaucoup plus gros dans mon enfance, oui, bien sûr. Non. Et il m'a dit cette chose, j'aurais voulu avoir la foi de mon père. Je cherche à avoir la foi de mon père. Mais si je récite le credo, il n'y a pas une phrase du credo à laquelle je puisse adhérer. Est-ce que c'est la même chose pour vous ?
Non.
Bon.
Parce qu'il y a une différence de génération. Et que...
C'est-à-dire que vous ne récitez pas le credo du tout.
Non. Non, mais comme je l'ai déjà dit, la porte n'est pas fermée. Je pourrais le faire, c'est pas une volonté de pas le faire, mais je ne le fais pas, pour le moment en tout cas. Peut-être je vous le dirai.
Alors, donc cette relation va se poursuivre, et il y a un épisode très, très intéressant aussi, c'est quand même, vous avez diverses vies. Vous avez été comédienne, vous êtes écrivain, et puis il y a un moment où les deux se mélangent, et vous venez à Bordeaux pour tourner un film, un téléfilm, un reportage.
Oui, 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 un tout petit documentaire.
Oui, sur le film de Bresson qui s'appelle « Les anges du
péché ».
Du péché. Évidemment, vous connaissez Bresson, et il y a même un livre... qui lui est consacré. Mais qu'est-ce que c'est les anges du péché ?
C'est l'histoire d'un couvent des sœurs de Béthanie, je crois. Et c'est un scénario de Jean Giraudoux. Et à propos, on avait une productrice contactée pour essayer de faire un premier documentaire sur... ce film, et puis je me suis rendu compte que un documentaire, on s'est rendu compte, pardon, qu'un documentaire sur Bresson, tout le monde s'en foutait, donc que ça je l'ai élargi au cinéma en 1940, français en 43. Et quand on était en train de monter avec Guillaume, ce que je dis, d'un coup on s'est dit, il me manque quelque chose, et il manquait le point de vue une religieuse sur ce film. Et à qui j'ai pensé, évidemment, au Père Dou, j'ai appelé, et il m'a trouvé une religieuse, Sœur Marie-Claude.
Qui a donc témoigné
Oui, de ce qu'elle avait ressenti en voyant le film.
Et est-ce que c'est la dernière fois que vous l'avez
vu? Oui, et je, évidemment, je ne savais pas que c'était la dernière fois. Parce qu'il était dans une rémission très convaincante d'un cancer.
Comment est-ce que vous qualifieriez cette relation ? Est-ce que c'est une... Donc, ma sœur Anne, ça peut être une relation fraternelle. Il vous appelle aussi... Il dit de ses élèves que ce sont tous des enfants de Dieu. Et il vous appelle mon enfant de Dieu. N'est-ce pas ? Ça peut être une relation filiale, paternelle, enfin... une relation amicale. comment est-ce que vous la... Vous ne cherchez pas à la qualifier, vous la décrivez tout simplement, mais c'est encore mieux. Mais qu'est-ce que vous diriez de cette... Est-ce que c'est une relation très forte dans votre vie?
Oui, et le mot qui me vient, c'est amitié.
Amitié, plutôt.
Et je mets dans ce mot vraiment beaucoup de choses.
Mais je vous pose une question quand même sur le titre. C'est-à-dire un saint homme. Est-ce que c'est à prendre dans le sens courant? C'est-à-dire, on dit c'est un saint homme, c'est-à-dire un homme pieux, généreux.
Non, pour moi, c'est...
Est-ce que c'est au sens... C'est plus que vous ça. Le canonisez?
Non.
Ah bon.
Ça veut dire, pour moi, mais je ne dis pas que j'ai raison, hein, ça veut dire un être humain. Je ne sais pas si vous en êtes un, mais peut-être, il faut que je vous connaisse mieux. Mais pourquoi pas?
Moi, je n'ai pas d'opinion sur ça. Oui, un être humain. Et tous les êtres humains ne sont pas de saints hommes, quand même.
Ah oui, mais ça, c'est à vous d'en discuter, les lecteurs. Oui.
Et alors, est-ce qu'il y a... C'est ce personnage, malgré tout, quelque chose qui vous est apparu comme une zone d'ombre, ou comme... Il y a chez les saints des zones d'ombre. Et est-ce qu'il y a des choses qui ne seraient pas parfaitement dans la lumière, dans cette lumière dont ce récit éclaire le personnage?
Si c'était le cas, je ne vous le dirais pas.
Bien.
Un. Deux. Non, parce qu'il est malheureusement mort vite et que j'ai pas eu le temps de me poser ce genre de questions. Mais de toute façon, ce serait, ça regarderait personne.
Hein. Bien sûr que non. Mais un écrivain, ça le regarde toujours là aussi.
Non.
Merci Anne.
Merci.
Pour ce beau livre. Ce beau témoignage sur une amitié. Et vous voyez que il est aussi l'ami de plusieurs personnes.
Mais je le savais.
Merci.